Bien, je vous propose de vous asseoir, on ne va pas trop tarder pour commencer. Tout d'abord, bienvenue à chacun d'entre vous. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici malgré un froid un peu pinçant et puis des giboulées de mars. Je me présente, bon, certains se connaissent déjà par ailleurs, etc. Donc le père Pierre-Marie Castaignos, j'ai 59 ans, j'appartiens à la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Je suis situé basé à l'abbaye d'Ourscamp dans l'Oise. Et ça va faire bientôt près de 20 ans maintenant que je travaille sur la question des couples. Et ça s'est fait un peu comme ça, par des rencontres, parce que auparavant j'étais en Argentine et j'étais aumônier de prison. Alors je ne sais pas s'il y a un lien ou quel lien vous pouvez faire entre les deux, mais du coup c'est quelque chose qui est venu progressivement, et c'est vrai qu'il m'a assez enthousiasmé, parce que je trouve qu'à chaque fois il y a un travail à faire. Et puis voilà, on sent que la fragilité aussi des uns et des autres, de besoin d'être soutenu dans cette démarche-là. Donc, grande partie de mon ministère, c'est la préparation au mariage, des prédications de retraite. Et puis, depuis 2014, octobre 2014, j'ai mis en place des retraites mariage et discernement. Il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes ici, ont participé à ces retraites. Et parce qu'il m'a paru important je sentais qu'il manquait quelque chose, je veux dire, dans la préparation au mariage, etc. Il y a toute une forme d'emballement dès qu'on va dans les fiançailles, donc on annonce, ne serait-ce que l'annonce, etc. Il y a une sorte de forme de toboggan dans lequel les amoureux sont projetés, etc. Et qui fait qu'ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. Et du coup, d'avoir ce temps-là de recul, et d'autant plus que je vois que dans la vie religieuse et la vie sacerdotale, on a beaucoup d'étapes. Hein, on a par exemple dans la vie religieuse le noviciat, on a les premiers vœux, on renouvelle les premiers vœux, etc., avant l'engagement définitif. De la vie sacerdotale, pareil, il y a le propédeutique, il y a la philosophie, ensuite souvent il y a un stage pastoral en paroisse, ensuite on reprend la théologie. Bon, pour s'assurer, et le mariage qui est un engagement pour la vie, tel que conçoit l'Église, eh bien, il n'y a pas d'étape. L'étape qui, on en parlera tout à l'heure, qui existe entre guillemets, mais qui est optionnelle, c'est les fiançailles, et que je trouve important, parce que je trouve que les étapes sécurisent aussi le parcours. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut quelque chose en amont des fiançailles, en amont de réfléchir à ça, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, voilà, d'avoir donc, pour vous, alors je ne sais pas où vous en êtes, vous avez peut-être déjà une date de mariage, certaines sont en relation amoureuse, ou l'ont été, etc. Donc du coup, pour vous, c'est, je dis, c'est important d'avoir des temps de réflexion, et du coup, j'ai mis en place des retraites. Et ça a été, clairement, ça répondait à un besoin. Maintenant, il y en a 6 par an que je prêche, 4 à l'abbaye et 2 à la communauté des Béatitudes. Il y en a une retraite là, à l'abbaye ce week-end, et j'étais le week-end dernier à la communauté des Béatitudes, et on voit à chaque fois c'est 70-80 jeunes qui participent aux retraites. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Et entre-temps, j'ai commencé à me former à la thérapie de couple. Et donc dans un institut laïque, à la thérapie systémique, c'est peut-être certains sont familiers de la psychologie, etc. Et donc du coup, de la systémique, contrairement à la psychanalyse, qui est plus une dimension personnelle, etc. Mais la systémie envisage plus la dimension du rapport à la famille, de voir comment chacun est situé dans sa famille et comment ça interagit, c'est un système familial. Donc du coup, je trouvais ça très intéressant, c'est la 4e année, là je termine cette année, mais ma formation de thérapeute en tant que telle est terminée. Et du coup, muni de ça, muni de mon expérience, puis il faut absolument mettre par écrit les choses, parce que à ce jour, non seulement il n'y a pas vraiment de retraite destinée, ou peu, les jésuites en font une, peut-être quelques-uns, mais en tout cas, c'est pas du tout massif comme les préparations au mariage. Je me suis dit, il faut mettre aussi par écrit, parce que pour se transmettre, et donc vous trouverez un peu des échos de mes différentes formations dans ce travail-là, dans ce livre-là, des échos de tout ce qui est psychologie, qui on va en parler, des échos, je ne vais pas l'aborder ce soir, de la philosophie. J'ai fait mes études de philosophie à l'IPC, à l'Institut de philosophie comparée, Et j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup marqué, etc. Et donc, vous trouverez des traces. Alors, ceux qui aiment bien un peu. Alors, le premier chapitre, il y a un peu, on store un petit peu les moments, on store un peu les neurones. Donc, voilà. Mais bon, si vous aimez bien ça, ben, vous aimez bien faire. Si ou non, vous sautez, puis vous passez. Et du coup, et puis, évidemment, toute la formation spirituelle, j'allais dire, qui est là présente, comme évidemment un arrière-fond. C'est comme prêtre que j'écris le livre. Et je trouve, voilà, ces trois aspects-là de ma formation que je retransmets avec pas mal, beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples et de travaux pratiques aussi. À la fin de chaque chapitre, il y a des travaux pratiques. Voilà, donc ça peut être au service de guide. Alors, pourquoi aussi ce livre? C'est parce que j'ai de la conviction, en tout cas, à travers près de 20 ans de préparation de mariage, où j'accompagne bon an, mal an 20, 30 à 40 couples par an, en individuel, j'ai la conviction que déjà, on peut déceler dans les couples qui sont là, ce que sera le couple, à peu près, bon, bah, on peut toujours se tromper, puis on a les libertés qui... C'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux, hein, le sacrement du mariage. Donc, du coup, voilà, c'est aussi deux libertés qui se rencontrent et qui parfois choisissent deux chemins différents. Mais donc, du coup, mais on peut, en tout cas, aider dans des groupes, des choses un peu massives, etc. Et donc, parce que on se marie de plus en plus tard, vous mariez entre la trentaine, la plupart d'entre vous autour de la trentaine, et du coup, vos psychologies sont quand même assez établies, vos carrières professionnelles, vous avez déjà débuté dans la carrière professionnelle, il y a déjà une stabilité. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, il y a pas mal d'éléments là qui permettent de discerner, et de discerner, sachant que bon, un certain nombre d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais on a opté pour la vie commune avant le mariage, qui pour moi n'est pas une aide au discernement, tout en respectant le chemin de chacun, mais ce n'est pas une aide au discernement, parce que ça, parfois le discernement demande une certaine distance aussi par rapport à l'autre. Et donc du coup, il y a plusieurs choses pour quel avenir donner à une relation amoureuse. Donc il y a plusieurs choses, c'est un peu le titre de notre conférence, il y a plusieurs choses qui sont en ligne de compte. La première chose, c'est d'envisager chaque personne en tant que telle, et d'envisager ce qu'on appelle la différenciation. C'est tout le premier chapitre là-dessus, c'est en quoi le challenge du couple, ce qui n'est pas facile dans un couple, ce qui n'est aussi pas facile dans une vie communautaire, mais d'une autre manière, c'est comment dire je, comment dire tu, comment dire nous, sans que le je soit la dissolution du tu, et sans que le nous soit l'absorption du je. C'est-à-dire que comment que chacun à la fois dise « je » et comment à la fois un « nous » se constitue, mais qui n'est pas fusionnel, parce que la fusion, ça expose un « nous » qui puisse dire, voilà, mais qui en même temps l'affirmation de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui n'est pas facile. Donc, tout le premier chapitre est là-dessus, sur la partie de ce qu'on appelle en psychologie la différenciation. C'est-à-dire comment, sachant qu'on nous propose comme modèle en général, un modèle très fusionnel. Les étoiles dans les yeux, papillons dans le ventre, etc., comme si c'était l'homme de ma vie, la femme de ma vie, etc. Tout ça, je n'y crois absolument pas. Comme si c'était, ça nous dépassait, ce côté très romantique, et on confond amour et sentiment amoureux. Oui, on peut avoir des sentiments, mais on n'a pas forcément un amour pour nous. Du coup, je trouve ça intéressant de travailler là-dessus, de travailler sur le rapport aussi que chacun avec à sa propre famille. Ça, je revisite beaucoup ce lien avec la famille, parce que du lien avec la famille va aussi découler la manière dont j'envisage aussi ma vie de couple, la manière dont, voilà, dont j'ai eu parfois des images ou pas de vie de couple. Il y a eu une image de couple, le couple parental en tout cas, comment ça s'est passé. Voilà. Et donc du coup, d'être attentif à ça, et de prendre conscience aussi qu'à travers ce lien avec la famille, eh bien, il y a quelque chose qui aide justement dans le discernement. Et c'est vrai que parce que ce qui est particulier dans le mariage, là, la semaine dernière, je donnais une conférence, mais à la génération d'au-dessus, c'est-à-dire à la génération en ce moment de vos parents, le thème c'était « Nos enfants se marient, quelle est notre place ?» Et la place des parents n'est pas une place si simple. La place des parents n'est pas... Parce que, pourquoi c'est pas une place simple? Parce que, au fond, à travers le couple et à travers le mariage, il y a beaucoup de choses qui se rejouent de la vie familiale. Il y a beaucoup de choses qui s'exprime de la vie familiale. Hein, et donc, du coup, et les parents, quelque part, sentent à quoi aspire une famille, si ce n'est à se continuer. Et le fait de la continuité de la famille est quelque chose qui importe, et donc de se continuer dans quelles conditions, bon, ça c'est une chose qui est à voir. Et du coup, évidemment, se rejoue beaucoup de choses à l'intérieur du mariage, de ce qu'a été la vie de couple et le modèle parental, et comment chacun s'est distancé ou pas de sa propre famille. Parce que, à un moment donné, je parle souvent de quitte ton père et ta mère, parce que c'est justement ça, c'est le fait de devenir l'alter ego de ses parents. Mais ça, c'est pas si facile. Ça demande un travail de dire je aussi par rapport à ses parents, tout en étant dans l'affection, la tendresse. Mais en même temps, on peut ne pas être d'accord. Devant moi, j'ai ma chère maman, donc du coup, je la salue au passage. Et vous pourrez la saluer, je pense, c'est de loin la doyenne de l'Assemblée. Et donc, du coup, voilà, comment dire je aussi par rapport aux parents, au désir des parents, aux volontés des parents, aussi à tout ce qui est les rituels familiaux. Et beaucoup dans les familles classiques, il y a au niveau du dress code, au niveau de la manière d'envisager le mariage, comment chacun a des exigences aussi, même au niveau. Le matériel, par exemple, je suis très attaché à la question du matériel. La question du matériel n'est pas que le matériel. La préparation matérielle de mariage dit aussi quelque chose de ce que le couple vit. Et évidemment, des difficultés personnelles qui ressortent dans le couple, ce sont, au fond, l'autre qui fait miroir. L'autre fait miroir, et donc ça veut dire que la vie de communauté, comme la vie de couple, et le couple est une communauté parmi d'autres, le couple demandera justement de travailler sur soi. Il y a des choses que je découvre dans le lien avec l'autre. Il y a des choses que je découvre dans le lien avec l'autre. Ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Et je découvre justement le lien avec ma famille. Hein, comment ma famille m'a construit, comment il y a eu des choses aussi que j'ai besoin de clarifier, peut-être de guérir, d'apaiser, de distancier. Je discutais pas plus tard que ce matin par Skype avec un couple où c'est des grosses tensions dans la préparation au mariage, etc. C'est très compliqué. Bon, parce que chaque famille a des exigences, et puis on veut sécuriser, il y a une famille qui est plus intrusive que d'autres, et puis même si, prenez conscience, même si vous êtes né dans le même village, la même rue du même village, le mariage ce sera un choc culturel, que vous le vouliez ou pas. Ça, vous n'y couperez pas, c'est un choc culturel. Hein, même si l'autre peut vous paraît cocher toutes les cases, même si l'autre, on ne coche pas toutes les cases, il n'y a pas de famille, par définition, identique. Et donc, c'est une manière, ne serait-ce, je pense, à le jeune couple que j'ai eu ce matin, mais de vivre l'accueil, comment est-ce que chacun est accueilli dans la famille de l'autre. Des familles qui sont très généreuses, très affectives, etc. D'autres familles beaucoup plus froides, beaucoup plus sur la réserve, beaucoup plus sur ça, etc. Donc, bon, voilà, rien que ça, parfois on est un peu déstabilisé, voire un peu inquisitrice, mais vous venez d'où, vous faites quoi, et votre père, machin. Bon, voilà, un peu, c'est un peu en mode entretien d'embauche. Donc, du coup, c'est vrai que tu passes au scan comme ça, et puis on te scan de haut en bas et de bas en haut. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Et donc voilà, du coup, c'est de se dire que... on parlait ce matin avec le garçon, mais comment tu te positionnes par rapport à ta fiancée? Est-ce que tu la défends? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, du coup, ça veut dire que lui, qui ne sait jamais, qui est un garçon qui n'a pas eu de difficulté, un parcours un peu de premier de la classe, etc., il me dit, moi, je n'ai jamais eu à m'opposer, moi, j'ai toujours vécu dans une famille comme ça, où on était plutôt froid, où il y avait parfois des petites piques, etc., mais elle les ressent, puissance 10, bon, bref. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que, lui, ben, du coup, c'est peut-être la première fois que tu vas rentrer en désaccord avec ta famille, avec tes parents, en disant, mais non, là, par exemple, pourquoi, telle manière de faire, telle organisation du repas, etc., le nombre d'invités, ben, là, on n'est pas d'accord. Parce que là, ils étaient... en train de dicter, voilà, on a prévu ça pour vous, oui, d'accord, mais bon, et vous avez consulté? Non. Alors du coup, ça, je pense que c'est, si vous voulez, ce qui est difficile pour un parent, c'est qu'ils sentent que c'est un moment crucial, mais en même temps, ils sentent aussi que le parent, par définition, s'est occupé pendant 18, 20 ans, voire plus, de son enfant, et a donné tout ce qu'il pouvait, etc., et à un moment donné, intervient une tierce personne. Donc, toute annonce de mariage, c'est quelque chose d'heureux, mais ce qu'on n'envisage pas, que c'est aussi quelque part un deuil. Un deuil pour une famille telle qu'elle était auparavant. Notre famille était comme ça avant. Maintenant, on intègre une tierce personne dans notre famille, et ensuite qui va avoir des enfants, etc. Et du coup, cette tierce, ça va bousculer, bousculer les rapports, etc. Donc il y a aussi une forme de deuil. Le mariage, c'est aussi à savoir faire un deuil. Faire un deuil que je ne serais peut-être pas accueilli dans ma belle famille, comme mon fiancé a été accueilli dans la mienne. C'est le deuil de ça aussi. Voilà. Donc, tout ce qui est le rapport aux familles, je trouve ça très important. Parce que c'est quelque chose qui... et je ne sais pas trop dans les préparations de mariage, mais je trouve qu'on ne travaille pas assez. Et bon, y a un autre point après. Je suis aussi très attaché au commencement, la manière dont commence le couple. Et donc il y a tout un chapitre sur les commencements avec des cas très, très concrets. Il faut que je retrouve là le truc. Des cas très concrets, etc. Du coup, on s'est connus à l'étranger. Maman, je suis enceinte, par exemple. Ça met toujours un petit peu de piment, voilà, comment gérer ça. t'agites ton test de grossesse, hein, good news, là, ou pas. Mon futur conjoint est déjà parent, couple international, vie étudiante, autonomie financière et mariage, on s'est connus sur Internet, handicap, maladie physique et mentale, coup de foudre, on se connaît depuis toujours, c'est tardé. À certains moments, le commencement, je trouve ça intéressant de travailler là-dessus, d'être attentif au commencement du couple. Comment le couple va débuter et comment ça dit quelque chose. En tout cas, moi, je suis très attentif au début. Par exemple, un couple qui se serait connu à l'étranger, qui aurait vécu à l'étranger, du coup, ou un couple où l'un des deux est étranger, par exemple. Et du coup, j'en cite plusieurs exemples comme ça. Où, en fait, la personne arrive à Paris, etc. Ils se sont connus à Londres, et elle arrive à Paris, et puis finalement, elle est une personne super. Néo-zélandaise, je pense, ou australienne, je ne me rappelle plus, moi, c'est de ce point-là. Et du coup, une fille super, vraiment pieuse, vraiment enracinée dans la foi catholique, profondément, je trouve, équilibrée. Bon. Mais mine de rien, il y a des tas de choses qui ont décidé à leur place, qui fait qu'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Et, du coup, et surtout, ça fait une relation en mode entonnoir. C'est-à-dire que tout passait par lui pour louer un appartement, pour aller voir un médecin, pour avoir la carte de sécurité sociale, carte vitale, etc. Parce qu'elle ne savait pas du tout comment fonctionne. Donc, oui, donc là aussi, ça dit quelque chose qui fait que le couple est rentré en tension de par le contexte dans lequel il s'est formé. Ensuite, il y a toute la question qui est intéressante des loyautés. Alors ça, pour ceux qui sont venus déjà à SPNSP et qui sont habitués, ils m'ont déjà entendu là-dessus. Il y a toute une conférence rien que là-dessus sur les loyautés. Qu'est-ce que c'est que les loyautés? C'est rendre du bien à ceux qui nous ont fait du bien. C'est-à-dire répondre aux attentes de ceux qui nous ont fait du bien. Et entre autres, évidemment, répondre aux attentes des parents. Hein, les loyautés, ça fait partie justement de cette dimension le plus de... Et là, je cite par exemple la loyauté à sa terre. Hein, un exemple d'un couple où lui, très enraciné dans sa terre, dans son terroir, et qui, le papa décédé, avait une exploitation viticole, et puis très connu dans la région, voilà, chasseur, bon, tout ça, etc. Et puis elle est dans le... Pas très, il était en Bourgogne, elle était à Lyon, elle dans une start-up beaucoup plus hors sol, etc. Et du coup, elle dit oui, mais il faut qu'on... Pour lui, le fait de redonner à sa famille, c'est aussi assumer, il s'est formé, il pensait reprendre l'exploitation viticole parce qu'il s'est formé comme ça, c'est sur la formation idéologique, etc. Pas aussi rapidement le décès brutal du papa, l'AVC, etc. Puis il est parti de façon foudroyante. Et du coup, il dit, mais non, elle dit, on va aller vivre à l'étranger. On va dire, bon, c'est plus difficile de diriger une exploitation viticole de l'étranger, surtout que voilà, si vous êtes à Hong Kong et vous êtes le truc en Bourgogne. Et du coup, lui, il dit, non. Il dit, mais non, moi, je suis là, je suis dans mon... Il dit, mais dites-lui, mon père, c'est un égoïste, qu'il n'écoute que lui. Non, je dis, non. C'est qu'il est dans une loyauté, et il est en fait dans un conflit de loyauté entre lui, sa famille, sa terre, l'exploitation des parents, surtout quand il y a des exploitations, des maisons de famille, des entreprises familiales, etc. Évidemment, ça se rejoue à plein. Parce que du coup, on se sent redevable. Oui, nous qui se sommes sacrifiés pour toi, tu as vu ce qu'on a fait, on se sent redevable aux parents ou à éventuellement aux frères et aux sœurs de ce que tu as fait pour nous, etc. Et du coup, il est clairement dans un conflit de loyauté. Et puis le couple, finalement, n'a pas abouti parce que lui, il n'était pas du tout dans ce mode d'aller vivre à l'étranger. Et puis, il était bien dans son terroir, puis il trouve quelqu'un, voilà, qui... C'est vrai que quand il y a des personnes qui nous disent, bon, moi, quand... Si tu te maries avec moi, ben, tu te marieras avec la situation de ma famille. Et s'il y a une entreprise familiale, ça fait partie de... Ou s'il y a une exploitation agricole, viticole, etc. Et que les parents vivent, ça fait partie de moi. Donc tu choisis aussi ça. Donc c'est là où parfois les personnes ne sont pas très claires. En affirmant les loyautés, parce que du coup, dans des conflits de loyauté, parce que chacun ensuite a le fiancé ou la fiancée a aussi ses loyautés, a aussi ses, avec sa famille, etc. Peut-être que sa famille avait vécu toujours à l'étranger, j'en sais rien. Bon, et du coup, face à quelqu'un enraciné dans un terroir, comment est-ce que tu fais? Comment tu te... Voilà, donc du coup, c'est, je trouve ça assez intéressant de travailler là-dessus, sur... Tous les rituels aussi familiaux, moi je suis très attentif à ça, les rituels familiaux. C'est qu'est-ce que j'appelle rituels familiaux? Bon, tout ce qui se vit à Noël, tout ce qui se vit pour les vacances. Là je cite l'exemple d'un couple où c'était vraiment compliqué, où les parents payaient les vacances à tout le monde, mais il fallait être, enfin, ces trois jours ensemble, H24. Et du coup, eux sont allés faire une balade en amoureux, tout bien, tout honneur, ils sont allés faire une balade, etc. Ils se sont fait allumer comme pas possible. Moi, on ne vous paye pas vos vacances pour que vous preniez du plaisir tout seul. On fait tout ensemble. Tout ensemble, ils disent, oui, on arrête au bout de trois jours parce qu'on s'engueule, forcément. Parce que tout ensemble, pendant trois jours, on n'en peut plus. On respire plus. Donc, voilà, ça, c'est des rituels familiaux. Donc, parfois, il y a des conflits de loyauté par rapport à des manières de faire des familles. Ou pour les vacances, pour les anniversaires, ou si tu habites la même ville, ben du coup on se retrouve les dimanches midi, voilà, tu es dans la même ville tous les dimanches midi, ben voilà, je suis allé parce que j'étais dans la même ville que maman ou mes parents, on mangeait ensemble, etc. Oui, mais du coup tu te maries, qu'est-ce qui change au niveau de ton rapport aussi à ce rituel familial, de manger tous les dimanches midi, après la messe, on a le truc, le rôti, compagnie, bon voilà, tout formidable. Bon, alors du coup, mais du coup, elle dit, mais non, bah non, moi, c'est pas comme ça, je ne vois pas passer tous mes dimanches avec mes beaux-parents. Ce qu'on peut comprendre par ailleurs. Donc, d'accord. En face de ma belle-mère, en train de couper le rôti et en train de vanter sa cuisine. Bon, Dieu, très bien. Mais du coup, je trouve ça assez intéressant de dire que le fait de l'introduction d'une personne, quelque part, déstabilise la famille, et il y a des parents qui sont très peut-être plus anxiogènes, plus angoissés, etc., qui ont peur de l'accueil de personnes extérieures, parce que ou veulent vraiment sécuriser de façon, voire mènent une enquête sur le futur conjoint. Ça m'est arrivé de voir ça aussi, c'est hallucinant. Je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas eu peut-être pas de policiers, mais bon, de personnes qui ont enquêté, qui ont des détectives, voilà, est-ce que vous avez bien fait à l'école, je suis allé dans l'annuaire de votre école, je vous ai pas vu votre nom, etc. Bon, en train, bon, c'est un peu chaud, quoi, donc tu te sens un peu fliqué, oui, vous avez fait ça, mais prouvez-moi, voilà, donc on sent que, bon, bah, tout ça, c'est des craintes, tout ça, c'est une forme d'anxiété et de peur. Du coup, je pense que c'est important d'être attentif à ça dans toute la partie des loyautés familiales qui sont revisitées à l'occasion d'un mariage et de la formation d'un couple, et puis même durant la vie de couple. Autant je ne crois pas couper le cordon, j'y crois pas, autant je crois avoir un cordon de 1000 km, c'est-à-dire qui vous permet d'aller, de venir, qui vous permet, mais pas un cordon où tu serres, où tu... forcément ça explose, parce que l'autre a besoin... Et le rapport aux familles dans la famille de chacun, évidemment, a été différent. C'est légitime. Hein. Donc, la question dans les loyautés, j'aborde la question du milieu, Nous ne sommes pas du même milieu. La question de la religion. Nous ne sommes pas de la même religion ou pas de la même manière d'être, plusieurs manières d'être catholique. Voilà. Les questions, évidemment, de religion. Et là, je cite l'exemple de Salomon, où il est juif. Et donc, du coup, qui se marie avec Hortense. compétences, etc., et qui, qui est dans, très, très ancré dans la foi catholique, le scoutisme, le parrainmonial, etc., les retraites en famille. Bon. Et je trouve ça très beau, leur chemin, je les accompagne, et un très beau chemin. Mais ça revisite les loyautés, et de voir comment. Je me rappelle un autre couple, j'ai accompagné qui était beaucoup. Lui était beaucoup moins impliqué. Les deux garçons n'étaient pas impliqués dans leur vie de foi, de toute façon. Mais il me dit, par exemple, rituel familial, je souhaite que mes garçons soient circoncis. D'accord, mais c'est un acte religieux, je ne connaissais pas trop le principe. C'était un acte religieux. Ah non, pas du tout, on fait ça à l'hôpital. Ok, très bien. Mais il n'y a pas le rabbin. Non, il n'y a pas le rabbin. Mais je dis, ben, c'est quoi le sens? Le sens, alors il me dit, comme ça, quand on prendra la douche, quand ils seront grands, etc., après le sport, on sera pareil. Voilà, donc. Bon, comme quoi les motivations religieuses ne sont pas forcément les motivations que l'on pense au premier abord. Quoi. On met pas le curseur. Et c'est vrai que. Mais aussi, j'ai vu à l'intérieur même du catholicisme, il y a énormément de variantes. Des personnes, des familles plus traditionnelles, dans le rite traditionnel, d'autres qui sont plus dans la dimension charismatique, plus dans la dimension liée à la paroisse, une vie paroisse, voilà. Quoi. Mais du coup, chacun met un peu. Et du coup, à travers la célébration, il y a vraiment quelque chose qui se joue aussi. Je veux dire, surtout si on a des exigences par rapport, toute ma famille a vécu comme ça, elle souhaite que ce soit comme ça. Bon, je me souviens très bien, elle, catholique et bretonne, les deux, c'est très important. Donc, et du coup, très enraciné dans sa Bretagne, etc. Et puis, lui, protestant, très enraciné dans sa communauté, ses parents en tout cas. Et du coup, ce qu'on convient d'habitude, c'est que dans un mariage qu'on appelle mixte, c'est-à-dire où les deux ne sont pas sont chrétiens, mais œcuméniques, mais pas catholiques, on dit pas de messe. Mais pour cela, grand-mère d'elle, que sa petite fille se marie sans messe, c'était compliqué. Alors, du coup, je dis, ok, attendez-vous, respirez par le nez, madame, etc., ça va bien se passer, comme chez le dentiste. Donc, du coup, vous allez, il faut que. Du coup, on a fait la messe le lendemain, le dimanche, du coup, tout le monde a la messe du. Voilà. Pour rendre grâce, pour. Voilà. C'est des choses comme ça qui arrivent quand on est prêtre, où on est obligé. Et sachant que les questions religieuses sont rarement des questions, ce sont des épiphénomènes d'autre chose. Il y a quelque chose, et ça j'en ai la conviction, les questions religieuses disent autre chose. C'est pas d'abord, parce que disent autre chose, et souvent de la famille, de la loyauté à la famille, ou de la volonté de. Parce que forcément, quand on est dans un mariage, on est dans une transmission. On est dans une transmission. Transmission des gènes, transmission du capital, transmission des codes culturels, transmission de la religion, etc. Donc si l'autre ne transmet pas là, imaginons des familles. Très marquée, peut-être assez clivante. Et c'est vrai qu'il y a des loyautés qui sont parfois compliquées, parce que c'est des loyautés qui sont clivantes, quoi, c'est-à-dire qui disent, bon voilà, c'est ou c'est toi, ou c'est nous, ou c'est lui. Voilà, ça c'est clivant. Et ça c'est très mauvais. Quoi. Du coup, une loyauté, elle doit ouvrir au contraire à d'autres. Hein, du coup, c'est intéressant de. Ce que j'appelle les loyautés toxiques, mais voilà, des questions religieuses, c'est rarement des questions religieuses. Moi. Que je me dis, sur les épaules de qui la religion est-elle juchée, hein, qu'est-ce que ça veut dire, oui, moi j'entends ce que vous dites, vous voulez le rite, par exemple, la messe en latin, etc. Très bien, parfait. Mais du coup, je parlais avec une dame ce matin qui est très, très attachée à ce rite qu'on appelle extraordinaire, la messe en latin, pour faire bref. Elle me dit, mais mes filles, pas du tout. Alors, je lui dis, mais vous accepterez que vos filles se marient en français, etc. Mais oui, ben, tout à fait. Bon. Bon, ça, je ne vous cache pas que ça m'aurait fait plaisir, ça avait fait la messe traditionnelle. Très bien, je comprends. Mais il y en a qui en font une exigence, si vous voulez. Donc du coup, c'est compliqué, ça met le couple sous tension. Et puis des questions religieuses, évidemment, forcément, c'est loyauté plus, parce que les religions, c'est des lois et des commandements, je veux dire. C'est, donc forcément, ça met le couple sous tension, à mon avis, inutilement. Et la vraie question n'est pas d'abord religieuse. J'ai jamais vu des séparations pour des divergences d'interprétation de la Sainte Écriture, si vous voulez, j'ai jamais vu ça. Ah non, on se divorce, on n'est pas d'accord sur l'interprétation de Saint Paul. Non, j'ai jamais vu ça. On se divorce parce qu'on ne peut pas se sentir, parce qu'on a du mal à vivre ensemble, parce que voilà, ta famille, je ne la supporte pas. Je comprends, bon, l'arrivée d'un enfant qui bouge coûte beaucoup de choses, donc Donc les causes de séparation sont pas jamais théologiques, si vous voulez. Donc ce sont des causes de séparation beaucoup plus affectives, des difficultés, des tensions. Bon. Donc du coup, je trouve ça intéressant de... Et je traite la question des religions et du milieu social, c'est pareil, je donne des exemples. Et je me sers de... Peut-être vous avez entendu parler certainement de Bourdieu, un sociologue français, qui travaille sur le milieu social, et donc du coup, c'est très intéressant de... J'ai pas mal fouillé, j'ai pas mal travaillé, pas mal de références aussi dans le livre. Bourdieu qui a dit qu'est-ce qu'était le milieu social et en quoi le milieu social imprime la personne, etc. Voilà, c'est pareil. Il y a des codes, il y a des personnes. Si vous venez de milieu plus populaire et vous rentrez dans le milieu plutôt de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, vous êtes comme l'ethnologue qui arrive en tribu amérindienne, voilà, et qui regarde un peu comment ça se passe, parce que du coup, c'est des codes qui paraissent pour la famille en question très simples, mais quand tu arrives que c'est pas du tout tes codes, t'as jamais vécu comme ça, bon, du coup, il y a un apprentissage, et c'est bien d'être. Mais j'ai accompagné vraiment des couples aussi qui avaient des grosses différences, et vraiment, là où ça va, ça aide beaucoup, c'est l'intelligence de chacun, que chacun mette de l'intelligence, et donc, tant la famille, parce que pour tendre les choses, c'est facile, on peut très, très vite tendre les choses. Utiliser, je dirais, même un livre de cuisine, si vous voulez, un livre de recettes de cuisine, rien de tel pour se mettre dessus qu'un livre de recettes de cuisine, par exemple. Ah non, mais moi, on a toujours fait comme ça, etc. Dans ma famille, la quiche, c'est comme ça, machin. Bon, très bien. Mais alors, avec la religion, plus, forcément, les livres, ça c'est... Voilà, donc du coup, je trouve ça intéressant, les loyautés, je trouve ça, c'est vraiment... Ensuite, de méditer aussi sur aimer, c'est quoi. Alors, c'est. Je trouve ça. Bon, les trois formes, pour ceux qui en sont plus habitués des conférences, etc., les trois formes d'amour, eros, philia, agapé, c'est en grec. Donc, c'est trois manières de dire je veux aimer. Alors qu'en français, il n'y a qu'un verbe. En anglais et en espagnol, il y en a deux. Mais en grec, il y en a trois. Et donc, du coup, le fait de. Eros, moi, ça forme érotique, mais ça veut dire aussi de l'amour qui prend, l'amour qui se complète dans l'autre. Philia, c'est l'amour d'amitié, l'amour de la philatélie, la philosophie, etc. Tout ce qui est fil, etc. Donc c'est l'amour d'amitié, c'est l'amour qui prend et qui donne. Et puis agapé, il n'y a pas de traduction en français. Agapé, c'est l'amour à la manière de Dieu, c'est ce verbe-là qui est heureux. Un amour qui donne sans attendre de retour. Et donc de voir comment, au fond, il y a à la fois un cheminement dans le couple. Et il y a cette manière d'aimer et tendre le cou aussi à ces faux prétendus de l'amour et qui sont en fait autant de là, ce week-end dernier, je vous disais, je prêchais la retraite là, mariage, discernement ou béatitude, et un des garçons me dit oui, mais avec mon ami, on est à fond, il suffit qu'elle dise une phrase, je la termine, on part, je sais pas, il était un peu jeune. Hein. Ensuite, j'ai dit, j'ai une idée, je l'ai dit, tac, on a exactement la même idée. Et j'ai dit, alors ok. Et un jour, imaginons que tu commences une phrase, elle la termine autrement, qu'est-ce qui se passera? Ah, oui, en effet, ça peut poser des problèmes, parce que aimer, c'est pas ça. T'es complètement dans l'erreur. Aimer, là tu vas dans le mur. Si tu penses qu'aimer c'est terminer les phrases que l'autre commence, non, ou au même moment dire la même chose, et si au même moment on dit des choses, c'est pas qui vous engueulez. Donc voilà, donc du coup, ah oui, c'est, du coup, il a commencé un peu à réfléchir là-dessus. Bon, ben, c'est normal, il est un peu jeune, etc. Et puis beaucoup dans les médias, dans la manière de. La presse people, etc., où on montre des choses du romantisme qui n'aide pas au fond. Alors je parle à un moment donné aussi qui vient de ma formation de la théorie de l'attachement. Alors vous regardez, si ça vous intéresse de travailler là-dessus, c'est au fond, dans l'amour, il y a la question de l'attachement. Est-ce que j'ai été sécurisé dans l'amour? C'est ça. Est-ce que j'ai été sécurisé dans l'amour? Est-ce que dans ma famille, enfant, est-ce qu'il y a une sécurité qui fait que je ne suis pas, qui exclut les relations possessives? Tu ne m'as pas dit trois fois par SMS je t'aime dans la journée, voilà, crise conjugale. Mais non, ça, c'est impossible à vivre. Hein. Et plus tu me suis, plus je te fuis. Hein. Donc, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est vouloir. Mais ça, c'est des insécurités personnelles. On a besoin de sécurité. Non, c'est pas ça, aimer. Donc, du coup, voilà, je parle de ça, de l'attachement. Je trouve ça intéressant. Ensuite, tout un chapitre sur la maturité qui est assez rarement développée. La maturité. Pourquoi la maturité? Parce que. Vous le savez ou pas, mais dans les déclarations de nullité de mariage, parce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un mariage à l'église des déclarations de nullité, etc., déclaration de nullité de mariage, aujourd'hui, dans les motifs de déclaration de nullité de mariage, c'est le manque de maturité qui vient. Le manque de maturité, il peut y avoir erreur sur la personne, c'est tous les problèmes liés au contrat, il faut qu'on retrouve aussi dans les contrats juridiques habituels, contrats commerciaux, bon, le dol, la pression, la contrainte, etc. Bon, mais aussi la question de la maturité, parce qu'on estime qu'une des conditions du mariage à l'église, c'est la liberté. Hein. La première question que le prêtre pose au couple, est-ce librement et sans contrainte? Est-ce librement et sans contrainte? Et donc du coup... la question de la maturité se pose, et du coup, je me sers d'un des documents du Concile Vatican II pour parler de ça, hein, comment définir la maturité, l'évaluer, les moyens pour grandir, etc., qui consiste beaucoup en trois points. C'est la maturité, c'est l'égalité d'esprit, hein, une certaine égalité d'esprit, c'est-à-dire attention aux ascenseurs émotionnels. Prudence dans les décisions, c'est-à-dire la prudence, c'est pas appuyer sur le frein, mais on met les moyens en fonction des finalités et on hiérarchise les buts entre eux. Et puis, bonne appréciation des événements des personnes. C'est un peu les trois aspects de la maturité. Et je développe ces trois points-là, parce que il y a peut-être d'autres choses à développer encore, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est peu vu, et alors que c'est quand même que c'est une des causes. Bon. Ensuite, je donne une boîte à outils dans le discernement, une boîte à outils de critères. Ça, c'est vraiment aspect subjectif et objectif du discernement, où vous trouverez à la fois la joie, à la fois la durée du désir, à la fois les signes, la place des signes de la Providence, la place de, à donner, voilà. Donc ça, c'est... Et puis pour terminer, la question de l'engagement. L'engagement, parce que n'oublions pas que le discernement vise l'action. Action qui peut consister à dire qu'on ne passe pas à l'acte, ou c'est pas mûr, ou on redonne à chacun sa liberté. Voilà, action qui fait qu'on dit, c'est sûr qu'un couple qui arrive épuisé de ses engueulades, je me dis, bon voilà, mais comment est-ce qu'ils vont durer, Seigneur? Ça ne va pas être possible. Alors du coup, je décourage de continuer. Hein, je décourage de continuer. S'ils veulent continuer, ils continuent. Ou quand il y a eu des violences déjà physiques sur l'un et sur l'autre, des manques de fidélité déjà au moment de la préparation au mariage, je dis, bon, tout ça, je dis, pour moi, c'est des bandes jaunes, tu les dépasses, pour moi, c'est fini. Je veux dire, tu ne prépares pas avec quelqu'un d'autre, tu ne prépares pas. Mais pour moi, ça sonne le glas de la relation, complètement. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de travailler là-dessus, sur l'engagement et toutes les peurs liées à l'engagement. Toutes les peurs liées à l'engagement, parce que le fait de se marier tard, le fait de. Quelque part, le succès de ces retraites-là, c'est lié aussi à la difficulté de s'engager, en général, de votre génération, que j'aime beaucoup par ailleurs, de relations parfois très longues, avant de poser un pas et de poser un choix, parce qu'on envisage la liberté sous un mauvais aspect. On pense que être libre, c'est de ne pas être engagé. Alors, c'est faux. C'est plus je m'engage, plus je suis libre. Plus je m'engage, plus je suis libre. Plus je pose. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté? C'est une volonté en mouvement. Voilà, c'est aimer, c'est vouloir. Vouloir, c'est aimer. C'est plus je pose des actes libres, plus je suis libre. Alors non, certains voient au contraire. Ils disent non, ils sont comme dans un rond-point à 1000 sorties, hein, et du coup ils sont là, l'infini des possibles devant eux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'infini des possibles devant moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux rien faire. C'est plus un rond-point, c'est un nombril, si vous voulez. Donc, du coup, c'est intéressant de pouvoir de dire, voilà, c'est le syndrome de l'avare, au fond, c'est le syndrome de l'avare. L'avare, au fond, l'avare, il est pauvre. L'avare, il est pauvre parce que l'avare, il est celui qui, en fait, il stocke, en fait, il n'est riche que de pouvoir d'achat. Mais dès qu'il achète quelque chose, il s'appauvrit, forcément, par définition, pour lui. Mais en fait, souvent, des personnes avares vivent très chichement, voire pauvrement, voire des costumes râpés ou des voitures complètement hors d'âge, etc. Donc, voilà, c'est un peu le principe de l'avare. On stocke du pouvoir, on stocke une potentialité. Pour nous, le fait d'avoir une potentialité, voilà ce qui compte. Ce qui fait que l'engagement ne se donne pas. Et on ne fera pas l'économie de deux choses qui ont une dimension spirituelle très forte aussi, la confiance et la miséricorde. On ne fait pas l'économie de ça. Dans tout engagement, quel qu'il soit, et singulièrement l'engagement matrimonial, on ne fait pas l'économie de la confiance. Tu sais avec qui tu vivras, mais tu ne sais pas ce que tu vivras. Voilà, et cette dimension de manque de confiance, cette insécurité généralisée, et au contraire, cette vocation, volonté du risque zéro, du principe de précaution, où on veut tout sécuriser, tout base, tout, ça n'aide pas, parce que du coup, on veut tout verrouiller, etc. Alors que non, la réalité, elle est dans la confiance. Et cette confiance, et la miséricorde, voilà, de se rappeler que le mariage, c'est d'abord l'union de deux pauvres. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais pour s'aimer. C'est pas pareil. Oui, bien sûr qu'on s'aime, mais on veut cheminer ensemble, on veut rentrer dans une dimension de don et on veut avancer. Et du coup, qu'est-ce qu'on prend comme moyen pour ça? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... de ce point de vue-là, l'Église, elle porte un message tout à fait au rebours de nos contemporains, qui ne veulent pas d'engagement, qui pensent de relations... c'est un rebours complet. Voilà, nous avons une autre vision. Alors que le christianisme a été la matrice de la culture européenne pendant des siècles, maintenant on est plutôt dans une contre-culture, j'allais dire, par rapport à l'ambiance générale. Voilà un peu ce que je voulais vous dire de cette question du discernement. Et donc, quel avenir donner à une relation amoureuse, pour terminer, je pense que c'est le choix progressif que vous faites, c'est les étapes que vous suivez, c'est l'accompagnement. Je pense que c'est dans l'accompagnement. Et puis, ne pas oublier aussi l'élan du cœur, ne pas oublier la confiance que le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Vous, d'une certaine manière, vous passerez aussi par le porche de la béatitude des pauvres. Hein, vous connaissez la première des béatitudes, bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et du coup, il y a des choses que vous vivez que vous n'avez pas choisies. C'est évident, et c'est dans ma vie communautaire, c'est exactement pareil. Il y a des choses que vous vivez où vous n'attendiez pas ça du tout. Mais c'est là où il y a une vraie, où la dimension de foi, d'être croyant, quand même aide beaucoup. De pas avoir du tout de dimension de foi, de vie spirituelle, d'espérance. Donc ça veut dire d'espérance, fait qu'on est vite livré dans le face à face de psychologie blessée, quoi, et plus ou moins équilibré. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mes amis, ce soir. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de ça avant que nous passions au buffet qui nous attend de l'autre côté? Bon, c'est bon ça. Oui, vas-y. Bonsoir. Oui. Oui, certainement. Pas catéchisme, mais bon, parce qu'il y a pas, je ne prétends pas écrire un catéchisme. Non, merci pour ta question, mais c'est en amont, tu as tout à fait raison, c'est en amont du mariage, c'est cette question du discernement, qui est, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de livre là-dessus. Il n'y a aucun livre qui a été écrit autant sur la préparation au mariage, sur le couple, il y a pléthore de choses de très bonne qualité, etc. Mais sur cette question, j'ai l'impression que personne ne s'en est emparé. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai rien rencontré. Alors que sur le discernement religieux, de la vocation religieuse, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et de qualité. Mais l'autre, c'est vrai, c'est tout à fait, c'est l'étape en amont de ça. Ça se veut, il y a la saison. En fait, il y a d'abord la saison 2 qui est sortie, mais maintenant c'est la saison 1. Donc. Oui, ah, il y a une question par là-bas. C'est bien, ça se réveille petit à petit. Faut être courageux, c'est bien, t'es courageux, t'as ouvert la. Alors, la théorie de l'attachement, oui, certainement. C'est intéressant parce que ce n'est pas de moi, je le reprends quelque chose d'autre. Hein, je suis très paresseux, donc je copie les autres d'une certaine manière. Mais ça a été de psychologues qui ont travaillé là-dessus, qui ont vu que. Ils ont fait des études, des Américains, évidemment, qui sont les champions de la psychologie, etc. Ont vu, et ça a donné une thérapie qui s'appelle la thérapie centrée sur les émotions. Ont vu qu'au fond, qu'on voit un enfant. Un nourrisson, ils ont vu des essais, etc. Il réagit en fonction du regard qu'il a en face de lui, du visage qu'il a en face de lui. S'il voit un visage qui n'est pas expressif, et du coup on voit maman avec son bébé, etc., et qui fiche son visage, et du coup on voit le nourrisson dans une vidéo qui est un peu perdu, et voire se met à pleurer. Et du coup, la maman sourit, etc. Et du coup, voilà. L'attachement, c'est que c'est au fond de sécuriser, être sécurisé dans l'amour. Et donc, quelqu'un qui a été sécurisé dans l'amour n'a pas besoin d'activer son attachement à l'autre, parce qu'il est déjà là présent. Et donc, mais en revanche, quelqu'un qui n'est pas ce qui est insécure intérieurement aura toujours le désir de revérifier l'attachement de l'autre. D'aller, de dire, voilà, est-ce que tu es bien avec moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, je pense que si on est dans cette dimension de fragilité intérieure et de manque de sécurité intérieure dans l'amour, au fond, et que, parce que dans son enfance, c'est ceci, c'est cela, on n'a pas eu ça, on a besoin toujours de ce qu'on appelle de réassurance, d'être conforté, d'être, bon, voilà, parce qu'on n'a pas ça en nous, alors que l'attachement, quand il est bien vécu, ben, du coup, l'enfant grandit avec une stabilité, et du coup, il a ça en lui. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Ensuite, il y a des personnes justement qui arrivent dans la vie de couple et qui ont, en fait, ont peur toujours que l'autre parte. Donc, du coup, d'où le côté possessif. Mais c'est précisément le côté possessif qui fait partir. Vous voulez, c'est plus t'es possessif, plus t'es intenable. Donc, du coup, je trouve que voilà, ça veut dire c'est une personne qui doit travailler sur son attachement et sur la sécurité qu'elle a en elle-même. Est-ce que c'est cet attachement-là, ou est-ce que, hein, de même, on voit des personnes qui sont toujours, comme disait le père Denis Sonnet, le téléphérique. Voilà, au début de la relation, hop, ça monte très vite, etc., etc. Bon. Puis ensuite, tu arrives à un moment donné, puis ensuite, il faut que tu t'encordes, il faut que tu sortes les piolets, les crampons, puis il faut un peu s'accrocher. Bon. Et il y en a, non, ils redescendent dans la vallée, ils reprennent la téléphérie, et ça tout le temps. Bon, à un moment donné, voilà, donc, parce qu'il y a une forme d'insécurité, parce que, où ils ont mal compris ce que ça voulait dire aimer, etc. Donc, du coup, je trouve intéressant de travailler là-dessus, et cette thérapie centrée sur les émotions, sur lesquelles je ne suis pas formé, c'est une formation à part, mais. Qui dit quelque chose de l'émotion, une hypersensibilité, côté hyper émotionnel, émotivité, dit parfois manque de sécurité intérieure. Vous voyez, donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Oui. Alors, quand il y a un gap au niveau de la vie spirituelle d'un des deux, que les deux soient baptisés ou non, etc., bon, quand il y a un gap et qu'il y en a un qui est plus avancé, ce que je conseille, c'est la personne qui est moins avancée, et gardienne de la vie spirituelle de l'autre. C'est-à-dire, tu es peut-être moins avancé, voire tu es d'une autre religion, d'une autre confession, où tu n'es pas baptisé, tout simplement sans confession, sans aucune culture religieuse. On demandera si le baptême dans le mariage à l'église, on demande sur le baptême et l'éducation chrétienne des enfants, ça m'est demandé, ça fait partie de ça. Mais du coup, que celui qui est le plus avancé, pour qui ça compte le plus, entre guillemets, ne soit pas obligé de mettre en berne sa foi. Hein, mais du coup, voilà, je aborde cette question-là, mais j'ai vu des couples, c'était admirable, où lui a découvert la foi, alors qu'elle était déjà beaucoup plus avancée, beaucoup plus impliquée, beaucoup plus... Voilà, et je lui dis, du coup, si vous partez, je ne sais pas quoi, en vacances, c'est toi qui trouves la messe. Si tu pars dans ta famille, même si dans ta famille, on ne va pas à la messe de Noël, par exemple, ce n'est pas du tout une tradition, tu trouveras une messe de Noël pour ta fiancée, ton épouse. Bon, voilà, c'est d'être attentif à ça, et puis de dire quelle cohérence je donne comme couple. Et donc ça, c'est important. Est-ce que l'autre se sent à l'aise avec ça? Alors, sachant les problèmes sociétaux, évidemment, ça s'implique. Parce que je me rappelle comme ça avoir accompagné au mariage de personnes baptisées, etc. Mais elle, beaucoup plus impliquée dans la manif pour tous, beaucoup plus impliquée dans les veillées pour la vie, à fond là-dedans, quoi, dans le taquet. Lui, pas du tout, lui, le mariage homo, moi, si les homos veulent se marier, moi, je vois pas le problème, du moins qu'on m'empêche pas de me marier, etc. Donc, vous voyez, un peu, on est dans des horizons. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la manière de pratiquer la religion, c'est des univers mentaux, c'est des visions du monde. Et là, je leur ai dit, attention, fonctionne là, parce que là, vous deux, vous voyez, vous n'avez pas la même vision du monde. Vous avez, toi, tu es beaucoup plus, progressiste, si on pourrait dire, et toi, tu es beaucoup plus exigeante dans ta foi, et avec comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez, c'est dans la préparation, dans l'accompagnement, où on pointe ça du doigt, on dit, est-ce que, dans cette vision du monde que tu as, quelle est ma place? Toi, tu vois une vision du monde plus traditionnelle, avec une famille traditionnelle, etc. L'autre, il dit non, moi, ça m'est un petit peu égal, je vais à la messe, je vais pas à la messe, c'est très bien. Mais c'est être attentif qu'il y a des visions du monde, des univers mentaux qui sont véhiculés avec les religions comme avec les milieux. C'est des univers mentaux, c'est une manière de concevoir le monde. Et donc ces manières de concevoir le monde, si vous n'avez pas forcément la même, ou vous ne mettez pas le curseur au même endroit, en tant que tel, ce n'est pas une difficulté. Simplement, est-ce que celui qui a moins la vie spirituelle ancrée en lui, en quoi il va pouvoir être un soutien pour celui qui... et que ce ne soit pas celui qui est le plus impliqué, qui doit brader sa foi pour plaire à l'autre. Parce que ça, c'est tirer vers le bas, si vous voulez, ça n'irait pas. Je ne sais pas si je suis à peu près clair dans la réponse, ça va, c'est... donc je développe cette dimension-là. Et si, d'aventure, la personne qui n'a pas la foi dit, écoute, vous met dans une loyauté toxique en disant, soit tu choisis ton Dieu, soit tu ne choisis pas, c'est au revoir. Parce que pour moi, ça c'est... Si on commence déjà par un chantage, déjà dans la préparation au mariage, ça va aller où? Si vous voulez, ça va aller où? Donc je pense que... J'avais une question par ici.
Bonjour et merci beaucoup. En fait, il y avait deux questions. La première, alors vous venez après de répondre, c'était en gros, j'ai remarqué que vous aviez parlé dans la volonté de la religion de chaque participant du couple, mais j'étais étonné de ne pas du tout entendre parler en effet de présence de Dieu et ainsi de suite dans le couple. Et la deuxième, je cherchais une manière de l'articuler. En fait, c'était un peu pour rebondir sur la théorie de l'attachement et sur le rapport des parents. Mais je me suis demandé quelque peu plus souvent si jamais on n'a pas tendance à reproduire dans nos vies les schémas qu'on a vus enfant, notamment en effet dans notre couple, les schémas qu'on a vus par les parents. Et que j'avais un peu remarqué que quelquefois, quand on voit une discussion dans le couple, on discute un peu comment c'était avec les parents et qu'on retrouve la même chose. Et même chose quand il y a des réussites, on voit que ça a été appris. Je me demandais si jamais.
Oui, c'est sûr que la première image qui vient, c'est le couple parental, si tu veux, pour un couple qui se forme. Donc c'est le couple parental qui vient comme première image, là, ou deux choses. C'est pas pour rien qu'on est avec qui on est. Pour moi, ça c'est très clair. C'est pas pour rien qu'on est avec qui on est. C'est-à-dire que il y a de fait, je me rappelle comme ça une jeune fille qui me dit, mais non, mais maman n'a aucune attente sur moi, etc. Elle avait épousé, elle allait épouser en préparation un jeune homme bien sous tout rapport, etc. Je lui dis, ok, on va faire un test. Tu dis, maintenant, avec ce jeune homme, c'est fini, tu vas amener un type tatoué, avec les piercings, etc. Tu vas voir si ta maman n'a pas d'attente sur toi. Bah, évidemment qu'il y a des attentes. Parce que plus on aime quelqu'un, plus il y a des attentes. C'est évident. C'est là où il faut renoncer à ses attentes pour l'autre. Pour laisser l'autre aller, ce qu'on appelle l'altérité, la différenciation, l'autre aller son chemin. Et donc, oui, on a des modèles, mais du coup, c'est important de dire, oui, ça, je l'ai appris de mes parents, ça, pour moi, ça compte, etc. Ça, c'est des loyautés. Mais est-ce que toi, ça te pose des... C'est vous avez chacun, vous arrivez en couple, chacun avec vos manières de voir comment rendre à vos parents, et comment c'est normal. Des modèles que vous avez... Comment ça peut s'articuler? Est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est pas toxique? Voilà, c'est un petit peu. Est-ce que c'est clivant pour le couple? Est-ce que c'est une exigence de la part des parents ou d'un des deux? Bon, au niveau de la vie spirituelle, par exemple, si je commence à mettre le bon Dieu en compétition avec le conjoint, ça va pas. Je veux dire, parce que le sacrement du mariage, c'est vraiment ça. C'est l'amour de Dieu dans l'amour de l'autre. C'est le principe de la vie chrétienne. C'est l'amour, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Et donc, du coup, ça n'irait pas, parce que ça voudrait dire une forme de loyauté. Je trouve ça intéressant de voir que c'est. Oui, on reproduit, on vient pas de nulle part, on n'est pas dans des générations spontanées. Et donc, mais c'est juste un peu être conscient de ça et de voir à quel point c'est pour l'autre compliqué à vivre ou pas. Qui se lève, c'est bien, il y a des courageux là. C'est bien, vous pouvez... Oui. Oui, alors il y a des critères de discernement. Alors pour moi, il y a deux formes de critères de discernement. Et là, il y a les critères que j'appelle objectifs et les critères que j'appelle subjectifs. Et critères objectifs, ça veut dire quoi? Objectif, objectare en latin, ça veut dire mis devant, c'est-à-dire que tout le monde peut voir. Par exemple, la durée de la relation, comme par exemple l'épanouissement du couple. Par exemple, de voir qu'il y a les personnes sont plus heureuses en étant ensemble qu'en étant seules. Parce que l'absence de l'autre ne me rend malheureux et sa présence heureux. Si c'est l'inverse, c'est vrai qu'il vaut mieux se poser les bonnes questions avant. Parce que ça peut être un peu chaud, mais je marque le désir, la certitude. Ah oui, la certitude. Alors, ensuite, il y a les aspects subjectifs. Les subjectifs, c'est quoi? C'est qui habite la personne elle-même, qui est dans le cœur de chacun. Le désir, je marque le désir de tendre vers l'autre. Dieu nous appelle en faisant naître de bons désirs en nous. Voilà, le désir de s'unir à l'autre, ça c'est quelque chose de mystérieux, c'est l'amour au fond. Et puis de ce que j'appelle la certitude intérieure. Ça c'est à un moment donné, il y a une certitude intérieure qui arrive. Il y a une forme de clarté qui arrive dans le cœur, qui dit oui, c'est lui, c'est elle, avec ce qu'il est, ce qu'elle est, ce qu'elle est, ce qu'il est. Bon, je dis oui parce que cette certitude-là, je trouve que c'est un aspect important. De même, la rectitude d'intention. Ça, c'est un aspect subjectif. Rectitude d'intention, c'est-à-dire que si à un moment donné, dans votre relation, il y a le panneau fin FIN qui s'affiche, vous arrêtez. C'est-à-dire une dimension, en tout cas, où la vie chrétienne est présente. On n'est pas juste là parce qu'il nous tient chaud en hiver. Je veux dire, avec l'autre, parce que... Ou ça fait bien d'arriver à deux dans un dîner, ou parce qu'on a des câlins, voilà, non. Alors je sais très bien que ça va. J'ai sorti mon périscope et je suis en train de regarder ailleurs, de voir s'il n'y a pas mieux sur le marché. Ça c'est non. Ça c'est rectitude d'intention, il faut une droiture d'intention. Si vous pensez que clairement la personne n'est pas pour vous, et ben, du coup voilà, vous arrêtez. Et voilà, c'est parce qu'on n'utilise pas les autres pour soi, c'est pas un. N'instrumentalise pas l'autre. Voilà. mais aussi comment vivre une rupture. Ce n'est pas un critère de discernement, c'est plutôt bon. Il y a une manière de vivre une rupture, pas par SMS. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a deux mots qui me viennent à l'idée. C'est le mot chirurgical et c'est le mot gratitude. C'est chirurgical, c'est comme le frère va schlac, comme ça, tu l'as, les poils, t'as une croûte, ça saigne, etc. Ça, la rupture. Mais vaut mieux clair, vaut mieux que ce... Et on reste jamais amis, évidemment. Gratitude, c'est quoi? C'est de dire, on a besoin de relations qui nous permettent d'advenir. C'est-à-dire que sans être dans l'utilisation de l'autre, vous avez eu des histoires amoureuses qui vous ont au fond aidé, au fond même si vous n'y avez pas donné suite, mais qui, mine de rien, vous ont préparé peut-être pour la grande décision de cheminer avec quelqu'un, qui est aussi une forme de folie aussi aujourd'hui, surtout avec l'allongement de la durée de la vie, si vous voulez. Donc, vous en prenez au bas mot pour 50 ans, quoi. Donc, du coup. La question de la sainte indifférence, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est de dire, ben, on arrive à un moment donné dans le discernement, on se remet complètement dans la vie dans le Seigneur. Et j'invite à ceux qui sont, je parle de l'Isaac du cœur, c'est-à-dire vous connaissez Abraham qui offre son fils Isaac en sacrifice, etc. Bon, d'offrir, si on est vraiment dans une grande trouble, dans une grande insécurité, d'offrir cette relation au Seigneur et de voir vraiment et du coup pas de son, pas d'image pendant 15 jours. C'est-à-dire que bon, et si vous êtes en vie commune, vous trouvez un pote chez qui squatter, voilà, pour avoir plus de rien pendant 15 jours. Et la distance, je trouve, aide aussi. Et donc du coup, d'une distance qui permet de discerner. Parce que l'autre finit un peu par faire partie des meubles si vous avez le temps. Donc du coup, là, la distance, elle est là. Et ça vous permet intérieurement d'y voir clair. Voilà un petit peu la paix, la joie, un certain nombre de critères de discernement. Avoir les aptitudes requises, par exemple, bon, l'aptitude à la fidélité, ça c'est quelque chose qui est important. L'aptitude à la vie commune, je ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être potable, c'est-à-dire en termes de caractère. Il n'y a pas des caractères impossibles, si vous voulez. Il y en a, ils ont des caractères impossibles. Mais voilà, ils ont blessé de différentes manières, c'est des caractères très difficiles. Voilà, mais aussi, qu'est-ce qu'ils prennent comment eux-mêmes cheminent dans leur caractère. Ok, on a le caractère qu'on a, d'accord. Ma tête ne te revient pas, mais j'en ai qu'une. Mais d'accord, mais ensuite, qu'est-ce que je fais pour avancer? Est-ce que je me donne des moyens pour avancer? Et puis, c'est important, ça. Et puis l'aptitude, par exemple, l'aptitude, c'est sûr, si la vue d'un nourrisson vous donne des vomissements subis, etc., et vous donne des nausées avant de finir, bon, posez-vous la question si vraiment le fait d'être parent, c'est quelque chose qui vous attire, quoi. Bon, et donc, parce que qui dit marié dit parent, donc bon. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça, les critères de la boîte à outils. Il y avait d'autres trucs. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur les relations, sur les autres relations depuis 10 ans, et les relations.
Je n'ai pas entendu la question, je n'ai pas bien compris.
Pardon, j'ai une question concernant
l'Eros. L'Eros, j'ai entendu l'Eros.
Ouais. Mais vous, on est dans une relation depuis une dizaine d'années, oui. Et l'Eros, c'est
évanoui. Ah, oui, le désir de l'autre est évanoui. C'est ça ce que tu veux dire, c'est ça?
Exactement.
Le désir, oui. Oui. Alors, la question, l'Eros, souvent, là, si je dis, c'est l'amour qui prend l'érotique, la partie plus sexuelle des choses. Et c'est vrai que c'est important d'avoir que le corps de l'autre ne vous dégoûte pas complètement, par exemple. C'est quand même important, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais maintenant, je ne pense pas, là aussi, notre société est trop exigeante, quelque part. Il faut être au top sexuellement, affectivement, émotionnellement. Non, c'est pas comme ça que ça fasse. Voilà, le désir, c'est le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Et donc, du coup, ce désir, il est d'abord dans la qualité de relation que j'ai avec l'autre, qui me rend la personne désirable. C'est les attentions, c'est ceci, c'est cela. Ça se prépare, je veux dire, dès le matin, une union du soir, c'est dès le matin, dans la qualité de la relation qui fait que on est attaché l'un à l'autre. Donc, oui, il peut y avoir au début, oui, c'est un peu toujours pareil, au début, tout feu, tout flamme, etc. Mais après, c'est quelque chose qui se construit. Et ça dépend de nous, c'est pas quelque chose qui nous échappe. qui serait quelque chose qui s'impose. Non, le désir sexuel, on sait très bien, c'est quelque chose qui se construit, qui se... Et donc c'est très important, évidemment, d'avoir un désir l'un de l'autre. On est d'abord amis du corps de l'autre, d'une certaine manière. La première chose qu'on voit, c'est le corps de l'autre. Vous rencontrez l'autre dans un dîner, etc., mais c'est son visage, c'est sa manière d'être. C'est tout ça qui vous a séduit aussi, d'une certaine manière. D'autres...
Voilà. Il y a une question là-bas.
Ah oui, c'est bon. Excellente question. Faut-il vaut mieux travailler seul ou travailler à deux? Je serais enclin à plutôt dire travailler seul. C'est-à-dire que l'autre, s'il doit résoudre des problèmes personnels, parce que le fait du couple met une pression, si vous voulez. Le fait d'être en couple, l'autre, parce que l'autre ne va pas s'autoriser à bouger autant qu'il pourrait bouger s'il était seul. Donc, peut-être que tu as besoin de grandir, mûrir, et c'est pas parce que c'est pas un désamour de l'autre, c'est juste que de redonner à chacun sa liberté, là-dessus tu as besoin. Peut-être cette étape-là amoureuse a servi à que la personne se rende compte d'un certain nombre de choses. Encore une fois, il y a des relations amoureuses qui vous font advenir à vous-même, qui vous révèlent à vous-même qui vous êtes. Du coup, peut-être ça, ça a été un soutien, ça a été quelque chose qui vous a aidé. Mais je suis plutôt... Là, mais bon, là, c'est mon opinion, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est juste mon opinion. Parce que je trouve que travailler à deux, disons, s'il y a des choses qu'on doit résoudre, ça va vraiment seul. Et donc si on les découvre dans une relation, c'est important. Oui. Très bien. Aimer, oui, aimer c'est vouloir, vouloir c'est aimer. Et vouloir aimer c'est vouloir, vouloir c'est aimer. C'est-à-dire que, et d'un amour réciproque, on veut le bien de l'autre. On veut, c'est ce qu'on appelle un amour de bienveillance. Bienveillance c'est vouloir le bien. C'est pas une utilité, l'autre nous est pas simplement utile ou simplement agréable, mais on a désir du bien de l'autre, de construire ce bien de l'autre qui peut consister à dire je ne suis pas la personne qu'il te faut. Je me rappelle un couple, je l'ai accompagné, etc. Mais il y a un moment donné, je suis arrêté, je ne la rendais plus heureuse. Mais je ne suis pas la personne qu'il te faut. Par amour pour toi, je te quitte. Donc vouloir, c'est vouloir le bien de l'autre et réciproquement. Et ça, c'est important. Autant les différences ne me paniquent pas, autant les déséquilibres dans l'attachement réciproque, ces déséquilibres-là me questionnent beaucoup. Donc aimer, vouloir le bien de l'autre. Voilà, et qu'on sente que ce soit quelque chose d'une dimension de construction mutuelle. Voilà, je pense que c'est pour répondre brièvement. Là. Dépend des blocages. Si par exemple tu es bloqué quand tu prends l'avion, par exemple, ça c'est autre chose. C'est maintenant des blocages. Ensuite, c'est un peu vague le mot blocage. Ensuite,
oui.
Ah oui, ça crée un blocage, je veux bien le croire. Ah oui, bien sûr. Bah, là aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on attend d'être parfait pour faire un pas, je dis, on ne fait jamais de pas. Je dis, l'autre aussi t'accepte dans la manière, dans les, c'est-à-dire, entre guillemets, dans l'état où tu es, oui, là où tu es, là où tu en es de ta vie. Là où je dis, le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Voilà, s'il fallait être parfait pour se faire ceci, parfait. Non, on se marie pour s'aimer, pour grandir. J'ai fait mes vœux religieux, non pas parce que je les vivais parfaitement, mais pour les vivre. Donc, voilà, il y a des choses qu'on pourra résoudre dans notre vie et d'autres pas. D'autres qu'on emportera dans la tombe. Point. C'est dont acte. Simplement, l'autre doit réfléchir. Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Moi, je pense que ce week-end passé, j'accompagnais un couple. Lui est très angoissé. Visiblement, cette angoisse est familiale, anxieux, etc. Beaucoup de mal. Il dit, j'ai toujours une part d'ombre en moi que je n'ai pas pu lui révéler, etc. Je lui dis, ben voilà. Mais est-ce que toi, fille, tu, face à ce garçon angoissé, anxieux, comment tu gères ça? Est-ce que tu arriveras à gérer? Est-ce que faut assurer quand même de vivre avec quelqu'un d'angoissé et qui ne fait pas exprès d'être angoissé? C'est juste, voilà, c'est de l'angoisse, de même quelqu'un colérique, quelqu'un qui... voilà, est-ce que je suis capable de vivre ça? Est-ce que je suis... Et puis de se rappeler aussi que quand on choisit un conjoint, potentiellement, on choisit un père ou une mère pour ses futurs enfants. Donc est-ce que c'est... Ce modèle de père, de mère aussi, je veux donner à mes futurs enfants. Donc, oui, on peut avoir des blocages. La question, est-ce que je suis capable de vivre avec? Est-ce qu'il y en a qui sont capables? Et l'autre, ensuite, il y a une réponse qui vous appartient. Personne ne peut décider à votre place. Est-ce que je suis capable de vivre avec une personne angoissée, stressée, anxieuse? Voilà. Il y en a qui vivent ça très bien et qui les rassurent et au contraire, source d'apaisement. Bien, articule bien, parce que là, j'ai pas entendu là. Oui. Oui. Ah, est-ce que c'est pas demander de renier son modèle social? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste être intelligent. C'est juste comment faire avec le milieu social de l'autre. Je cite un certain nombre d'exemples dans le livre. Voilà, comment. Parce que ça a à voir beaucoup avec la sensibilité, le modèle social dans lequel on a grandi, a forgé notre sensibilité. Et donc, du coup, comment est-ce que dans cette sensibilité-là, j'ai accueilli l'autre et bon. Et voilà, et sachant qu'il y a des choses qui m'exaspéreront toujours, je sais pas quoi. Si l'autre va au dentiste, voilà, je vais au dentiste, c'est pas grave, d'accord. Bon, non, mais on ne dit pas je vais au dentiste, on va chez le dentiste, voilà, bon. Des trucs comme ça, mais bon, ben voilà, il y a des. Je dis, bon, mais, parce que. C'est la faute à tonton, très bien, mais on ne dit pas comme ça. En fait, c'est pas. Il y a des manières de parler qui. Bon, parce que c'est dans les milieux plus. Voilà. De même aussi, dans les milieux, entre guillemets, bourgeois, catholiques, je veux dire, assez représentés ce soir. je ne suis pas aveugle non plus. Donc, du coup, le manque, par exemple, de transparence, de clarté. Hein, pas de vague, on ne dit pas les choses, mais quand l'autre a claqué la porte, il est parti, là. Non, je m'appelle très bien une personne qui a affronté son beau-père et a dit, écoutez, non, si vous avez des choses à dire sur moi, vous le dites, mais en face de moi, pas derrière moi. Alors là, c'est un peu... Parce que c'est pas du tout dans le style, si vous voulez. Non, pas de vague, machin, ça. Donc du coup, voilà, c'est... Du coup, il y a des choses que l'autre pourra supporter, l'autre... Non, et puis chacun... C'est vrai que le milieu qui est plus porteur de valeurs, plus porteur, attirera plus, ça c'est sûr, je veux bien le comprendre, mais voilà, c'est... Ensuite, je pense que chacun... Ce qui a attiré l'autre, justement, ce qui vous attire dans l'autre, c'est aussi la différence. Il est de ce milieu-là, et quelque part, sa manière, sa simplicité, sa manière directe de dire les choses, vous ont attiré, quoi. Oui, alors là, je n'en pense pas beaucoup de bien. Alors, il est évident Alors, c'est un point, mais c'est pas, j'en parle dans un truc, se marier duré, c'est sur la préparation au mariage, mais là, j'en parle pas trop là-dedans. Il est évident que le fait d'être en couple redimensionne les amitiés. C'est-à-dire, tu peux pas faire comme si tu n'étais pas en couple. Et vous serez l'un pour l'autre la dernière amitié de l'autre sexe. C'est-à-dire que vous serez l'un pour l'autre, parce que qui dit amitié, dit temps partagé, dit confidence, laisser voir à l'intérieur de soi-même, etc. Ce qui fait le propre de l'amitié. Et donc du coup, évidemment, si tu es déjà en couple et marié, etc., ben, tu seras l'un pour l'autre la dernière amitié de l'autre sexe. Pour avoir des amis antérieurement, mais de créer de nouvelles amitiés, évidemment, là on est dans une pente glissante. Et je pense beaucoup au monde professionnel. Le monde professionnel, si on n'est pas attentif, ça, c'est une pente évidemment glissante. Mais qu'est-ce que dit, voilà, pourquoi ce besoin d'être avec l'autre, pourquoi est-ce que de ne pas se mettre dans des situations impossibles et beaucoup trop compliquées ensuite à gérer. Il y a une certaine, aussi c'est deuil, faire un certain deuil que je n'aurai plus d'autres amitiés avec d'autres hommes, d'autres femmes. Ce sera il y a quelque chose de c'est très fort dans le mariage à l'église, d'assez vertigineux, quoi, c'est assez radical. Et en même temps, c'est ce qui attire. Hein, et oui, donc moi je n'en pense pas du bien. Je pense que parce que toutes les infidélités, c'est avec des personnes connues, toutes. C'est la bonne amie, le bon copain, le collègue de travail, etc. C'est tout le temps comme ça, c'est toujours pareil. Avec qui on a laissé voir, on s'était penché sur son couple, on a laissé voir à l'intérieur de soi-même. Mais oui, le dépanchement, l'épanchement, on arrive où on arrive. Donc, la dernière. Oui, parce que la personne est trop loin de mes schémas familiaux. C'est-à-dire, la personne, je n'ose pas présenter à ma famille une personne qui est trop loin. Et du coup, je n'ose pas affirmer une différence parce que je pense que dans leur tête, ils attendent tel ou tel style de personne. Oui, bien sûr qu'on peut être tout. Oui, ils ont, quelque part, oui. Mais du coup, je pense que ça c'est le panneau fin. Je veux dire, si tu as honte de moi, il n'y a même plus de sujet. Vous n'avez plus un sujet. Quoi. Bon, c'est pas une fin réjouissante, mais bon. Bon, ce qui vous attend de l'autre côté est plus réjouissant. Allez, merci pour votre attention.